Je pense plus ça comme une conclusion qui, comme toute conclusion, est située et donc partielle et partielle. Je voulais d'abord commencer par remercier les organisateurs pour la richesse de ces deux jours. C'est pas quelque chose, c'est pas un remerciement de politesse. Je trouve que ça bouillonne, il y a vraiment plein de choses. Et aussi vous remercier pour, c'est vous qui avez donné la tonalité, mais pour l'ambiance générale de ces deux jours. Que j'ai trouvé une forme de relation apaisée. Il y avait pas, voilà, c'était très, très sympa comme journée. Alors, une conférence inaugurale, 6 séances bien remplies, donc 24 contributions. Donc, un appel à com qui visait large. Mais en fait, apparemment, il y aurait pu y avoir le double de communication. Donc, tout ça pour dire que si c'était aussi riche, varié, foisonnant. Je pense que c'est un moment spécifique des sciences sociales qu'il s'agit d'interroger. Alors, je vais essayer de le faire tout à l'heure de manière très modeste, mais il me semble que c'est révélateur d'un mouvement de fond qui apparaît depuis quelques temps, depuis les années 2000 en France, depuis la fin des années 80 dans la littérature anglo-saxonne, que certains appellent le spatial turn dans les sciences sociales. Qui va un mouvement qui approfondit ou s'autonomise en partie de la géographie, bien sûr, d'une part, principalement de la géographie urbaine et de la géographie quantitative, qui va étudier strictement les mobilités résidentielles, enfin les migrations ou les mobilités quotidiennes, pardon, voire en partie aussi de l'économie géographique, qui est très peu utilisé dans les autres sciences sociales, si l'on considère l'économie comme une science sociale, mais il y a des choses intéressantes à aller voir dans ces domaines-là, qui s'autonomise aussi en partie de la stricte démographie ou de la démographie canal historique, pourrait-on dire, qui va évaluer les mouvements de peuplement sans réellement tenir compte des propriétés sociales des migrants et ou des logiques sociales qui entourent les migrations, mais qui s'autonomise aussi, me semble-t-il, de la sociologie des migrations, puisqu'ici, il ne s'agit pas tant de quantifier, d'évaluer le sens des migrations, ses causes ou ses effets, que de comprendre les logiques sociales, proprement sociales, des petites et grandes mobilités géographiques en lien avec les trajectoires sociales des groupes et des individus, et les confrontations entre groupes, comme l'avait inauguré Jennifer Bidet dans le premier topo. Et puis aussi, qui va approfondir, me semble-t-il, une sociologie de la stratification, des mobilités sociales ou de la domination qui résonnent à échelle nationale ou, si ce n'est nationale, du moins macro. C'est-à-dire, en gros, par rapport à toutes ces influences que j'ai listées par rapport à celles que je connais, il me semble qu'il y a un gros travail qui est fait collectivement pour affiner ce rapport entre mobilité sociale et mobilité géographique. Alors, j'ai deux points dans mon topo. Je vais essayer de ne pas être trop long pour éventuellement pouvoir discuter un petit peu derrière s'il nous reste du temps, s'il y a encore du monde dans la salle. Le premier point, ça va être ce qui me semble être la genèse de ce mouvement et la genèse des travaux qu'on a vus ici. Alors bien sûr, il y a des revues qui sont essentielles, notamment Population, enfin pour les revues françaises, Population, Espace et Société, Genèse, etc. Mais il me semble qu'il y a un papier qui est très important. Et puis rendons à César ce qui appartient à ma connaissance. À l'INED, c'est-à-dire un premier gros papier dans Population de Blum, Tello, Delagorce, Mobilité sociale et migration géographique, qui prenait de manière frontale, qui à ma connaissance donc était le premier à analyser, le lien entre mobilité sociale et mobilité géographique. Puis il y a eu ensuite la grosse enquête de l'INED Projet Parents, qui m'a beaucoup influencé, moi, de Catherine Mauvalet et ses collègues, où on affine et on va notamment voir le lien, l'échelle des migrations, migration sociale et géographique en même temps, bien sûr, entre la campagne et la ville, entre la province et Paris. Alors, d'autres travaux de démographie, mais en démographie historique également, donc des travaux des années 90. Je pense, je vais passer rapidement, mais aux travaux de Rosenthal sur à partir de l'enquête TRA, ou de Gribaudi qui a commencé à déconstruire, un peu trop à mon sens, la classe ouvrière, mais néanmoins en tenant compte des migrations ville-campagne autour de Turin. Et puis on pourrait lister un peu comme ça, donc sociologie des ségrégations, avec la et au-delà de la morphologie sociale des lieux, donc de Halbwax à Presseil pour le tracer un fil très très rapide, de la sociologie des institutions, notamment de l'école, je pense à tout ce qu'on a vu dans la session 3 sur la sociologie de l'éducation. Sociologie du travail et de l'emploi aussi. Et puis, ce quoi on ne pense pas forcément, mais il me semble qu'il y a un moment dans l'anthropologie française qui est important, qui a été le changement d'objet de Gérard Altab et ce qu'il a fait autour de l'anthropologie urbaine, son projet de mener une anthropologie urbaine qui a été un petit peu à moitié suivi dans les années 80, ou à d'autres travaux d'anthropologie plus anciens et étrangers. Par exemple, j'ai lu récemment le Pedro Martinez d'Oscar Lewis. Et par rapport au collègue géographe qui nous a présenté la question de Mexico tout à l'heure, en fait, c'est assez intéressant. Alors, c'est très, très narratif. Hein, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez, en gros, Oscar Lewis va travailler exclusivement à partir d'entretien sur une famille, sur un homme, sur Pedro Martinez, donc sa femme et un de ses fils qui va interviewer. Et ça manque évidemment d'analyse, puisque c'est des résultats bruts. C'est vraiment les entretiens tels qu'ils sont retranscrits, retravaillés, etc. Mais on voit très bien comment Pedro Martinez, qui est un petit paysan de la campagne mexicaine, quand il va à Mexico, il va migrer quelques années, entre 5 et 10 ans à Mexico, on retrouve toutes ces logiques que l'on connaît bien maintenant autour de la mobilisation des proches des parents pour aller dans des lieux qui sont en fait déjà frayés par d'autres. Et quand il y va lui-même frayer des nouveaux lieux au sein de la ville, va servir de pionnier pour les autres. Alors, autre forme de genèse, je pense à l'analyse localisée de la stratification. Donc, à la suite des travaux d'Altab, c'est lui qui, comme par hasard, enfin, ça n'en est pas un évidemment, a dirigé les thèses de Florence Weber et d'Olivier Schwarz, et donc l'idée de travaux monographiques sur des classes ou des fractions de classes. Voilà, et bien sûr de Jean-Noël Retière sur l'Anester. Et puis, on peut avoir aussi des travaux à échelle plus macro ou moins monographique, pour le moins, des groupes sociaux, des dominés. Alors, pour les dominés, je pense à Sayad, bien sûr, mais aussi au très regretté Michel Verret, qui est donc décédé il y a quelques jours et qui a été un des premiers, pour ce qui me concerne, ça a été très important, c'est-à-dire à mettre le doigt sur le fait que la première des populations rurales, ce sont les ouvriers. Voilà. Et puis, donc, chez les dominés, mais aussi chez les dominants, on a beaucoup. Les travaux d'Anne-Catherine Wagner, par exemple, ont été beaucoup cités au cours des journées. Alors, en termes de genèse aussi, il me semble qu'il y a quelque chose qui est important, qui l'est du moins pour moi et pour quelques-uns des collègues avec qui je travaille de manière privilégiée, c'est une sociologie des appartenances. Le mot appartenance est beaucoup revenu dans les journées. Il me semble que les enquêtes prolongent la démarche de Jean-Claude Chamboredon sur les appartenances, les images sociales et la morphologie sociale des territoires. Alors, on pense souvent, bien sûr, aux travaux qui ont été cités sur Anthony, sur les populations des grands ensembles. Mais il y a aussi tout ce qu'il a fait plus tard, notamment, enfin, principalement dans les années 80, mais pas seulement, un peu dans les années 70 déjà, sur les territoires, la chasse, la construction sociale des populations. Il y a, par exemple, deux magnifiques textes dans l'histoire de la France urbaine sur les questions. Et en fait, pourquoi je parle de Chamboredon ici ? Parce qu'il me semble que c'est quelqu'un qui a été important dans la manière dont on a pu se l'approprier après, pour utiliser la question spatiale dans l'analyse de la domination et travailler, voir les médiations localisées qui vont intervenir dans la production des positions sociales. Et là, on va, me semble-t-il, à mon avis, un peu plus loin que les effets de lieu de Bourdieu, c'est-à-dire qu'on va vraiment pas prendre l'espace comme uniquement une matérialisation des formes de domination par l'architecture, par la fréquence des lieux, etc., mais aussi comme une producteur de positions sociales. Et quand je parle de Bourdieu, ce texte donc de La misère du monde sur les effets de lieu me semble en partie contradictoire avec le premier Bourdieu anthropologue sur celui sur le célibat et conditions paysannes, où on voyait très bien l'opposition entre le bourg et les hameaux, même si ce n'était pas au cœur du texte, c'était quelque chose qui était un peu en filigrane dans le texte, et dans des choses très concrètes, dans la construction des positions sociales à travers les alliances, les formes d'alliances et le fait que les femmes des villages se détournent des paysans voisins pour aller voir du côté du bourg chez les petits employés. Et il me semble que cette notion d'appartenance et tout ce qu'il y a autour dans les travaux de Chamboredon m'apparaît comme étant une alternative très utile à la métaphore terrienne de l'enracinement, qui personnellement me pose problème, dans le sens où il y a eu des écrits là-dessus, hein, notamment un super texte de Silverstein dans Acte, dans le numéro, je crois, de 2002, sur Bourdieu anthropologue dans Acte, où il fait un peu la genèse, il fait une critique du déracinement de Bourdieu-Sayad, où on voit que la métaphore de la racine, c'est quelque chose qui vient d'extrême droite, de Barrès, etc., du début du XXe siècle. Et il me semble que c'est problématique, parce que du coup, on va toujours avoir tendance à vouloir essentialiser les populations qu'on a en face de soi, du moment où on va chercher à les renvoyer à des racines. Il me semble qu'on peut aussi faire la même critique avec la métaphore non pas terrienne, mais plutôt marine de l'ancrage, qui peut du moins être prise sur le même ressort. Et il me semble qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Il y a des alternatives à la notion d'enracinement, donc appartenance chez Chamboredon, tout simplement intégration dans la tradition durkheimienne, ou le couple intégration-stigmatisation chez Elias et Scottson, etc. Et donc j'en viens ici à faire quelques précisions sur la notion d'autochtonie, puisqu'on est, comme l'a bien relevé Éric Neveu, dans un contexte d'accumulation analytique des capitaux, des différentes adjectifs qu'on applique aux capitaux, au-delà des capitaux sociaux, symboliques, économiques et culturels. Et donc, Neveu pointe un risque de marcottage intempestif de la notion de capital. Et il me semble qu'on a raison, et je voudrais juste repréciser ici le pourquoi de l'utilisation de la notion de capital autochtonie chez Retière et dans mes travaux. En fait, c'est justement pour aller contre le risque d'essentialiser les populations, comme avec le mot d'enracinement, pour penser les populations qui ne détiennent pas ou très peu de capital économique ou culturel. Et donc là, c'est un point de désaccord que j'ai avec la camarade Sylvie Tissot. Donc c'est dommage, j'ai pas pu en parler avec elle, mais ça arrivera bien un jour. C'est-à-dire que il me semble pas qu'on puisse parler de capital d'autochtonie pour les populations dotées de capitaux économiques ou culturels, donc classe moyenne ou supérieure, dans le sens où les capitaux économiques ou culturels se spatialisent. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans les topos aujourd'hui, ça se spatialise, soit par une accumulation de patrimoine, par exemple, ou de réseaux relationnels, etc. Et c'est, à mon sens, différent du capital autochtone des classes populaires, qui ne peut passer, d'une part, que par le collectif résidentiel, les pompiers, un club de foot, une place secondaire dans un conseil municipal, des organisations festives, etc., qui va rendre possible une stabilisation des trajectoires familiales, avoir un nom, un réseau, et qui va surtout hiérarchiser et différencier les classes populaires entre elles. Et puis d'autres influences, alors je vais finir sur la question de la genèse, mais d'autres influences, notamment certaines que je ne connais pas, et la liste n'est évidemment pas limitative, hein, c'est comme je l'ai dit situé comme propos. Alors j'étais surpris, j'ai pas pu en parler avec Thierry Ramadier, mais le fait qu'il soit psychologue d'origine m'a un peu surpris, m'a rendu curieux. Donc il y a peut-être des... Bon, alors apparemment, c'est quand même un psychologue très géosociologique, mais ça m'a ouvert à des inconnus. Alors au final, il me semble qu'il y a une richesse qui tient au croisement de ces multiples origines et qui passe par dans les topos qu'on a vus, une très forte richesse méthodologique. Donc on a vu des statistiques, de la cartographie, des graphes, des enquêtes ethnographiques ou des enquêtes de terrain plus classiques. Des suivis de trajectoire, des monographies qui aucune n'était des monographies au sens de celles que j'ai évoquées plus avant, plus haut, de quartiers, de villages, etc. Mais qui sont adaptées au questionnement. Donc, j'ai déjà fait référence au travail de Jennifer Bidget, mais la plage qu'elle enquête et le complexe hôtelier qu'il y a, il est vraiment choisi ponctuellement. Comme un terrain d'enquête parmi d'autres dans une enquête plus large et qui va permettre d'analyser. Mais bon, évidemment, il y a autre chose. On a entendu parler de Strasbourg, de Mexico, des calèches du 93, d'autres lieux, etc. Avec, à mon avis, un gros point fort qui est qu'on sort des limites administratives du lieu pour prendre en compte les origines sociales et géographiques des populations, les allers-retours, etc. J'ai beaucoup aimé aussi dans le topo des collègues de l'INED ce matin, ou cet après-midi, je ne sais plus, ça commence à se brouiller, la notion que je trouve assez heuristique de catégorie sociale biographique, et surtout ce qu'elle dit, quoi, c'est-à-dire cette volonté d'affiner, de ne pas prendre les PCS en brut comme ça, mais de d'essayer de les construire avec l'idée de pente ascendante, descendante, etc. Et donc, il me semble que cette richesse méthodologique elle est très importante parce qu'en gros, on a besoin de l'ethno et du quali pour faire du quanti et vice-versa. Voilà. Alors, quelques grandes 5 points sur les apports et les questions qui me sont venues autour de. Alors, le premier point qui m'a beaucoup marqué, c'est la première session en fait sur l'internationalisation des enquêtes. Et la notion que je trouve très heuristique également de Jennifer d'espace social transnational, que l'on peut appliquer à d'autres travaux qu'il y a eu ensuite, donc comment se construit le sentiment de déclassement des migrants chinois, par exemple, ou les trajectoires des Comoriens ou Togolais, des Sénégalais en Italie, etc. Ou, de l'autre côté, d'espace social sur l'accumulation des capitaux pour les élèves russes en Suisse, sur les différentes fractions d'étudiants voyageurs des grandes écoles, etc. Bref. Il me semble que c'est un motif de réjouissement collectif que l'on peut avoir. La démarche de Sayad d'analyser dans le même temps les migrés et l'immigré est complètement intégrée aujourd'hui. Deuxième point, sur les logiques d'ascension sociale et le rôle de la mobilité géographique. Quand on rentre dans le détail des topos qu'on a eu aujourd'hui, on s'interroge en fait un peu sur l'idée d'une société où la mobilité est généralisée. Puisque en fait, en haut comme en bas de l'espace social, on voit de très forts arrangements avec cette mobilité. On a vu chez les classes sup des mobilités à l'international qui sont certes très fortes, mais qui sont en fait très préparées, qui vont toujours dans le même sens, et donc qui sont en fait des espaces d'entre-soi, etc. Et puis, même si, comme l'a rappelé Sophie, les classes populaires n'ont pas le monopole de la sédentarité, on voit des formes de mobilité sur des lieux qui sont en fait familiers. Et peut-être c'est cette notion de familiarité qu'on pourrait utiliser pour travailler, puisqu'en fait, dans tous les milieux, c'est cette idée de familiarisation avec l'espace physique via les réseaux relationnels. Voilà. Alors, on a peut-être moins vu, on l'a vu un peu, mais peut-être plus aujourd'hui qu'hier, la question de la sédentarité. Ou alors, d'une manière de le dire autrement, la question des dommages de la mobilité. Alors, on l'a vu aujourd'hui avec les femmes dans les couples. Mais au-delà, il me semble que la mobilité peut aussi être descendante, la mobilité sociale, elle peut aussi être descendante, on ne l'a pas beaucoup vu. Il y a des cas de déclassement ou de reproduction sociale, on a vu des cas de reproduction sociale, mais il me semble que il y a là des enjeux de connaissance tout aussi importants. Il me semble qu'on a tout intérêt collectivement à étudier ensemble le revers et la face. Voilà, ensuite, troisième point qui est autour de la question de la famille. On voit le poids, à travers tous les topos, on l'a beaucoup, beaucoup vu hier, le poids des lignées et des parentèles qui est très confirmé, donc suite à l'enquête projet parents notamment, mais pas seulement. La famille irrigue partout. Ce que j'ai trouvé assez plaisant, c'est que c'était pas une sociologie de la famille au sens strict du terme, c'était une famille à chaque fois qui est située dans un contexte local. Où les logiques familiales vont prendre sens et se développent. Alors, quatrième et avant-dernier point, qui sera un peu plus conséquent, c'est la question, ça a été, Sophie Orange l'a un peu évoqué dans sa discussion, Yasmine aussi, lors de la première, une des deux premières sessions, je ne me rappelle plus, c'est la prise en compte du poids des institutions. Donc scolaire, on l'a beaucoup vu, avec notamment quelque chose que j'ai trouvé assez marquant dans le papier, le topo des collègues Chauvel et Frouillou sur les logiques des enseignants qui vont privilégier in fine le localisme des classes populaires, enfin qui vont produire une forme de localisme chez les classes populaires, alors qu'en fait ce localisme, il est d'abord chez les enseignants. Ou ce qu'a dit Yasmine sur le poids des administrations, des papiers, etc. Et donc du coup, ça m'a amené à me poser une question. C'est lié à la question des institutions, mais ça la déborde. C'est la question de l'injonction à la mobilité. C'est quelque chose qui a été beaucoup mobilisé, mais au final pas questionné. C'est-à-dire que cette injonction à la mobilité, elle d'où vient, d'où ? Qui la produit ? Comment elle se produit ? Comment ça passe concrètement ? Dans le système scolaire, dans l'ensemble des institutions qui susceptibles de produire cette injonction, évidemment sur le marché du travail. Comment donc elle se construit concrètement, par quelle voie, comment elle s'impose ou non, et que signifie-t-elle pour ses producteurs. Et puis aussi, quels sont ses effets. On voit qu'il y a des rejets, des appropriations. Et souvent, en fait, c'est un peu un lien avec ce que je viens de dire, ça ne marche pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'arrangements avec cette injonction, dans l'ensemble de l'espace social. Il me semble qu'il y aurait là matière à développer une sociologie politique des institutions, pour le dire un peu vite, pour le dire rapidement et un peu brutalement. En gros, on a toujours tendance un peu à mobiliser Boltanski, Capello, le nouvel esprit du capitalisme, mais c'est quand même empiriquement une enquête qui est d'abord fondée sur des manuels, si ma mémoire est bonne, des manuels d'école de commerce. Et donc voilà, cette injonction à la mobilité, c'est eux qui l'ont attesté, c'est théorisé, mais au-delà de ça, comment ça passe, quoi. Et puis, en lien avec cette question-là, donc sur les institutions, au-delà, c'est la question de la politisation, qui a été très très peu présente, voire absente des journées. Pourtant, il me semble que la question de la mobilité sociale comme géographique pose des questions en termes de politisation. Alors, je prendrai juste l'exemple de Ludovic qui nous a présenté une diapo. Il n'a pas commenté ça, mais c'était assez intéressant. Il y avait une diapo où il y avait le j'aime, j'aime pas. Et dans le j'aime, il y avait Mitterrand. Et dans le j'aime pas, il y avait Fabius. Voilà. Bon, ben, c'est des choses qu'on peut interroger, quoi. C'est-à-dire, est-ce que cette association de supporters est un vecteur de politisation, etc. Voilà. Et puis, dernier point pour finir. C'est la question, alors au-delà du jean et des chaussures de notre camarade qui s'occupe du personnel des hôtels, pourquoi se développe cet axe d'analyse qui vise à mêler analyse des mobilités géographiques et des mobilités sociales. Alors le premier point, je pense, qui est très important, c'est qu'il faut qu'on fasse collectivement attention, je pense, à ne pas réifier cette question de l'injonction à la mobilité. C'est-à-dire que si on la prend au pied de la lettre sans la questionner, et bien effectivement, de fait, on la produit, on la rend réelle, quoi, par le savoir. Alors, au-delà de ça, au-delà de cette question de l'injonction, il me semble que... alors, c'est en partie lié, c'est la réflexivité à l'histoire des idées que j'ai esquissée un peu plus haut, mais en termes d'histoire sociale des sciences sociales, quels sont les ressorts sociologiques du fait qu'aujourd'hui, il y a des générations de jeunes chercheurs qui développent ces questions ? Et je pense que là, on peut utiliser Bourdieu, sciences de la science et réflexivité, c'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on doit interroger en tant qu'intellectuel collectif. Alors, il me semble qu'il y a quelques éléments qu'on peut suggérer, au-delà donc de l'histoire des idées que j'ai déjà évoquées. Personnellement, dans notre travail quotidien ou hebdomadaire, nous éprouvons massivement, pour la plupart d'entre nous, des déplacements journaliers ou plus lointains. Par ailleurs, en termes de trajectoire, nous sommes aussi des mobiles géographiques, bien souvent, parce qu'on est rarement nommé dans le lieu où l'on a grandi, etc. Et nous sommes aussi, pour certains, de plus en plus nombreux, j'ai l'impression, et du moins je l'espère, en situation de mobilité sociale. Il y a quand même pas mal de sociologues qui sont des sociologues, ou sociologues, je parle de social scientists, quoi, qui sont des intellectuels de première génération, et c'est aussi quelque chose qu'il faut interroger. Et enfin, dernier point, dernière idée autour de cette, comme élément d'histoire sociale, des sciences sociales, enfin de réflexivité, c'est qu'une majorité des intervenants des deux journées sont en fait des intervenantes, et donc peut-être plus sensibles à ces questions de mobilité, à tous les petits problèmes quotidiens que ça peut poser dans les rapports hommes-femmes et la gestion domestique. Voilà, je m'arrête là. Thank you.